Des temps de ténèbres. Des temps de ténèbres. Tels sont pour beaucoup les temps que nous vivons aujourd'hui. Et la question se pose, alors, quel message pour cette génération? Quel message pour cette génération? Pour nous aider à répondre, je vous propose de nous mettre à l'écoute ce matin d'un prophète qui, je l'espère, nous est devenu cher ces derniers mois, je veux dire le prophète Sophonie. C'est à une forme de révision que j'invite les habitués du jeudi soir ce matin, à une forme de découverte pour d'autres. Je pense à ce pasteur très cher, avec qui j'avais une conversation au sujet des petits prophètes, comme on les appelle, de manière d'ailleurs tout à fait impropre, et qui, à propos de Sophonie, m'a dit « Ah, Sophonie, ce livre que je ne lis jamais, et qu'il me faut un temps infini pour retrouver dans ma Bible un pasteur, imaginez, de l'association. » Sophonie. Quelques extraits pour commencer. Extrait de son témoignage. Au chapitre 1er, les versets 1 à 7 tout d'abord. « Parole de l'Éternel, adressée à Sophonie, fils de Cushi et descendant de Guédalia, d'Amaria et d'Ézéchias, durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. » Et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres, et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par leur roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche. Quelque chose qui se passe là. Le jour de l'Éternel est proche. Puis dans le même chapitre, les versets 14, 15 et 17, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard. Je plongerai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière et leurs intestins comme du fumier. Chapitre 2 maintenant, les versets 1 à 3. Réfléchissez. Réfléchissez et examinez-vous, nation dépourvue de honte, avant que le décret ne survienne et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour et la colère de l'Éternel ne vous atteignent. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui mettez ses règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Chapitre 3, enfin, les versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, l'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion. Ne baisse pas les bras. L'Éternel est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. Quelques mots du contexte de ce message. Le contexte politique, d'abord. C'est l'époque des conflits entre l'Est et l'Ouest. Le monde est divisé en deux blocs, et pour survivre, les petites nations n'ont pas le choix. Elles doivent faire alliance avec l'un ou avec l'autre. Plus précisément, autour de l'an 630 avant Jésus-Christ, cette année qui nous intéresse plus particulièrement, l'Assyrie, en un seul mot, à l'Est, dispose encore de toutes ses forces. Et Ninive est toujours au centre du monde. À l'Ouest, cependant, l'Égypte n'a pas dit son dernier mot. Et la menace qu'elle fait peser sur sa rivale orientale est des plus sérieuses. Alors reste le centre, coincé entre ces deux grands blocs, un tout petit caillou, Juda. Juda, avec ses 3 ou 4 000 km², à peine la moitié d'un département français, ses 100 000 habitants dérisoires, et son roi tout juste sorti de l'adolescence, Josias, en effet, n'a pas encore 20 ans. Voilà pour le contexte politique. Le contexte religieux maintenant. À l'époque de l'intégrisme a succédé celle de l'œcuménisme à tout prix. Toutes les religions ne se valent-elles pas? Et pourquoi ne pas essayer celle-ci ou celle-là? C'est ainsi que les cultes se multiplient. À celui du Seigneur sont venus s'ajouter le culte des astres, pratiqué sur le toit des maisons, le culte de Baal, représentant les forces créatrices et vitales de la nature, vainqueur du chaos et de la mort, et source de la fertilité, le culte de Milcom, cette divinité ammonite à qui Salomon avait déjà consacré un autel sur le mont des Oliviers, et bien d'autres encore. Œcuménisme donc, là où ne l'a pas déjà emporté le matérialisme athée. Car ce peuple, qui s'est largement détourné du seul Dieu vrai, vivant, en qui il ne croit plus, l'Éternel ne fait ni bien ni mal, entend-on, à Jérusalem. Pour flirter sans honte avec un nombre toujours plus grand d'idoles creux, ce peuple est en réalité devenu un peuple sans Dieu. Mammon excepté, qui réunit chaque jour un peu plus d'adeptes, des hommes et des femmes qui n'ont plus Dieu que pour lui, et qui n'entendent même plus lorsque le prophète menace, chapitre 1er, verset 18, « Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. » Une multitude de cultes, par conséquent, dont certains vont jusqu'à favoriser la prostitution sacrée, et, tenez-vous bien, les sacrifices d'enfants. Mais une religiosité de façade seulement, à l'abri de laquelle se développe, en toute tranquillité, le matérialisme le plus pur et le plus dur qui se puisse concevoir. Voilà pour le contexte religieux. Toute ressemblance avec une époque familière serait tout à fait fortuite, évidemment. Le contexte moral. Comme on pouvait s'y attendre, l'apostasie de Juda s'accompagne d'une très inquiétante érosion de toutes les valeurs morales qui font la force et la vigueur d'un peuple. Le gouvernement a depuis longtemps cessé de légiférer, il ne fait plus que légaliser. Là encore, toute ressemblance avec une époque plus proche de la nôtre serait totalement fortuite. Les traditions sont foulées aux pieds parce que tout ce qui importe, voyez-vous, c'est de ne pas être en retard sur son temps. Désormais donc, la loi suivra les mœurs. C'est un peu cette société libérale avancée dont on a parlé il y a quelque temps abondamment. Plus d'absolu. Du coup, la situation intérieure du pays est des plus préoccupantes. La corruption sévit partout, y compris parmi les gouvernants. De morale sexuelle, on ne parle même plus, chacun fait comme il veut. Côté justice, c'est la loi du plus fort, du plus riche. Ainsi, les inégalités sont-elles chaque jour plus criantes, plus insupportables. Tandis que les uns font bombance, les autres meurent de faim. Et les magistrats dans tout cela, eh bien, ils se taisent. Comment dénoncer ceux qui leur graissent si généreusement la patte? Et les prêtres? Ben, les prêtres, motus et bouche cousue. Pourquoi? La raison est très simple. Parce qu'ils se trouvent trop bien dans cette société qui les respecte, les honore même, aussi longtemps qu'ils la laissent en paix. Voilà pour la situation du côté de Judas, aux environs de l'an 630 avant Jésus-Christ. Une situation telle que le Seigneur s'en émeut au point de dépêcher plusieurs porte-paroles auprès de Judas pour tenter une dernière fois de le ramener à la raison avant qu'il ne se perde définitivement. Et ces courageux apôtres ont pour nom Joël peut-être, Jérémie certainement, et puis Habacuc, Nahum et donc. Mon cher Sophonie, voilà pour le contexte. Venons-en maintenant au contenu du témoignage de Sophonie, son contenu. On peut dire, je crois, qu'il tourne pour l'essentiel autour de quatre grands thèmes. Alors je ne ferai pas l'affront aux habitués du jeudi soir de me demander de les rappeler. On ne sait jamais, dimanche matin, mal réveillé encore, il pourrait être couvert de honte. Non, quatre grands thèmes. L'universalité du péché, l'imminence du châtiment, la nécessité d'une repentance et la venue de temps nouveau. L'universalité du péché d'abord. Sophonie parcourt inlassablement la ville. Et que voit-il? Le mal partout et sous toutes ses formes. Il y a d'abord ceux qui, dans le temple ou sur les terrasses, se prosternent devant de faux dieux, comme si le Seigneur, celui d'Israël, n'était pas le seul Dieu qu'il soit demandé aux hommes de craindre et d'adorer. Et puis il y a ceux qui, à la cour, se laissent séduire par tout ce qui vient de l'étranger et qui n'hésitent pas à piétiner jusqu'aux traditions ancestrales les plus vénérables, si c'est ce qu'il faut faire pour rester branché. Et puis, il y a ceux dans la ville neuve, nous dit Sophonie, qui n'ont plus d'autre passion que celle de l'argent, qu'ils pèsent et qu'ils brassent inlassablement. Ce sont les gens installés de la rue du commerce. Une bande fébrile et bruyante que le Seigneur ne peut qu'abhorrer, tant il est vrai qu'elle est passée avec armes et bagages au service de son vieux rival, plus connu de nos jours sous le nom de fric. Enfin, il y a ceux de la vieille ville cette fois, qui dégénère et se décompose littéralement dans l'oisiveté et le vice, parce qu'ils ont su profiter de la peine des autres. Ils ont tout, leur existence pourtant n'est que l'ombre de la mort. Repliés sur eux-mêmes, ils ne sortent même plus, ils sont sans force, rien ne les intéresse plus, ils sont revenus de tout. Ah, si j'oubliais les spéculations fumeuses, voilà ce qui les distrait encore un peu. Qu'en pensez-vous, mon cher Dieu, existe-t-il? Tout cela est dans Sophonie. Il faut se rendre à l'évidence, le mal a pénétré toute la ville, comme depuis, il a gangréné tout notre monde. Une progression terrifiante qui a commencé le jour même. Le jour même où, c'était dans le jardin d'Éden, l'homme a préféré à la voie de la soumission à Dieu, celle de la non-subordination, de la non-dépendance, de l'autonomie. Alors, nous dit-on, le péché a fait irruption sur la terre et depuis n'a cessé de gagner du terrain, se répandant dans les cœurs, non pas de quelques-uns seulement, mais de tous les hommes. Tous sont maintenant sous la domination du péché, dit la Bible, tous. Comme cela a été écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, aucun. Douloureuse constatation que Sophonie, hélas, peut maintenant reprendre à son compte et dont il sait qu'il doit faire part désormais à tout le peuple. C'est le premier thème de sa difficile prédication. Venons-en au second, l'imminence du jugement. Car jugement, il y aura. Pas plus que les autres nations, Judas n'y coupera. Et cela, Jérusalem en particulier, doit le savoir, qui oublie si vite que Dieu ne peut pas laisser impuni le péché. Ne peut pas. Habacuc l'a déjà dit, un contemporain de Sophonie, je le rappelle. Habacuc l'a déjà dit, mais sans doute faut-il le rappeler. Ses yeux sont trop purs pour contempler le mal sans réagir. Peut-être pas tout de suite. Le Seigneur est patient. Il aime à donner encore et toujours à l'homme qui s'est détourné de lui la chance qu'il ne mérite plus depuis longtemps. Mais un jour ou l'autre, soyez-en sûrs, s'il a affaire à des pécheurs impénitents, cette chance leur sera retirée. Un peu comme ses contemporains de Sophonie qui non seulement font le mal, mais encore s'en glorifient. Contre de tels rebelles, sa colère ne peut manquer de s'enflammer tôt ou tard. Car c'est bien à une flamme que le prophète n'hésite pas à comparer cette colère. Une flamme dévorante, nous dit-il. Comme pour mieux faire sentir à son peuple combien c'est chose terrible que de tomber entre les mains d'un Dieu vivant pour s'être trop longtemps moqué ou désintéressé seulement de lui. Prenez garde, crie Sophonie. Le temps de la patience du Seigneur à votre égard arrive doucement à expiration. Car voici, le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive même très vite, écrit-il. Le jour de l'Éternel déjà fait entendre sa voix. Et le héros qui l'annonce pousse des cris amers. Car ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, de ruine et de destruction, de ténèbres et d'obscurité, de nuages et de brouillard. Un jour où les hommes, nous dit-on, seront livrés à la détresse et où ils iront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Surtout, mes amis, ne vous méprenez pas sur le Seigneur. Vous vous dites, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Eh bien, vous vous trompez. Dieu aime faire du bien. Mais il arrive aussi qu'ils doivent se résoudre à faire du mal. En choisissant par exemple un jour de livrer d'un coup tous ceux qui ici lui résistent toujours au tourment sans fin. Prenez donc garde, parce qu'il est amour, Dieu s'est entendu, mais du temps à s'échauffer, pour reprendre l'expression biblique. Sa patience cependant n'est pas sans limite. Veillez par conséquent à ne pas la lasser. Vous pourriez le regretter amèrement un jour. Mais ouvrons ici une brève parenthèse. Faut-il forcément, pour que le Seigneur perde patience avec nous, que nous commettions des crimes aussi graves que ceux de Jérusalem? La réponse est non. Il suffit en réalité que nous demeurions jusqu'au bout confortablement installés dans notre état de péché. Et cette sentence de mort qui pèse sur nous depuis l'origine, depuis que nous avons été trouvés pour la première fois impurs devant Dieu, le Seigneur l'exécutera certainement au jour qu'il a fixé pour juger tous les âmes. Or, ce jour, nous dit Sophonie, ce jour est proche. Et malheur à celui qui sera trouvé alors impur encore. Pour le prophète, donc, le jugement est imminent. Et mieux vaut s'y préparer d'urgence. Mais s'y préparer comment? Très simplement, répond Sophonie, en acceptant aujourd'hui de faire demi-tour. Et c'est le troisième thème de sa prédication, la nécessité d'une repentance. Réfléchissez Examinez-vous, lance-t-il à son peuple, chapitre 2, versets 1 à 3. Réfléchissez, examinez-vous, avant que le décret ne survienne et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vous atteigne. Cherchez l'Éternel. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Alors peut-être serez-vous épargnés au grand jour de l'Éternel. Autrement dit, réfléchissez. Vite, vite, n'attendez pas, réfléchissez. Et faites demi-tour, pas demain. Qui sait si demain ne nous sera accordé? Pas demain. Aujourd'hui. Oui, réfléchissez vite et cherchez le Seigneur. Car il faut que Jérusalem le sache, le Seigneur est encore, mais pour combien de temps? Il est encore à portée de la main. Qu'un seul donc décide en cet instant de retourner vers lui pour lui demander pardon. Et lui dire sa détermination à marcher désormais dans ses voies. Et Dieu se rapprochera aussitôt pour lever la sentence qui pesait sur lui. Et faire de lui un être nouveau qu'il pourra appeler alors son enfant. Le Seigneur, en effet, est encore prêt à répondre favorablement à quiconque l'invoquera avec sincérité. Les paroles du psalmiste valent donc toujours, psaume 145, versets 18 et 19, « L'Éternel est prêt de ceux qui font appel à lui ». Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Et le psaume 103, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, lui qui guérit toutes tes maladies, lui enfin qui délivre ta vie de la tombe. Car autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de vous vos transgressions. À ceux donc qui acceptent de changer radicalement leur conduite et résolvent dans leur cœur de se détourner du mal pour vivre enfin une vie vraiment juste, le Seigneur est encore prêt à accorder ce que par eux-mêmes ils ne pourront jamais obtenir. Je veux parler de la pureté absolue, cette pureté sans laquelle nul ne pourra échapper au jugement et qui jaillit toujours du pardon divin. Pour Sophonie, on le voit, il est essentiel que le Seigneur apparaisse au peuple comme le Dieu qui souhaite encore pardonner et pardonner gratuitement. Car le prix de ce pardon, c'est lui, le Seigneur, qu'il paiera tout entier lorsqu'à la croix, il frappera son propre Fils à notre place, pour que lui, ayant payé, payé pour nous, nous n'ayons plus à son égard la moindre dette, ô profondeur et richesse surabondante de la grâce du Seigneur. Mais revenons à Sophonie. Pour qui Dieu doit être présenté comme celui qui, pour un peu de temps encore, souhaite être amené par la repentance du peuple à revenir sur ce qu'il a décrété. Encore faut-il bien évidemment que Jérusalem accepte de rentrer en elle-même, de réfléchir et de faire demi-tour. Comme il faut pour que nous-mêmes échappions à la juste colère de Dieu, que nous nous recueillions, que nous reconnaissions nos torts envers lui, et que nous nous engagions à le suivre désormais sans réserve, et quel que soit le coût. Alors seulement nous saurons que la sentence de mort qui pesait sur nous, je dis bien la sentence de mort, nous saurons qu'elle est levée, et que pour nous, il n'y a désormais plus la moindre condamnation. Et ce sera pour chacun le début d'une vie nouvelle, une vie pleine une vie abondante, cette vie dans laquelle tous peuvent entrer, depuis que se sont ouverts les temps nouveaux dont Sophonie veilla à bien annoncer aussi la venue. Et nous voici parvenus au terme de sa prédication, de la nôtre également, l'annonce de la venue de temps nouveau. Nulle part, c'est vrai, Sophonie ne mentionne expressément le Messie. Il est clair cependant que les temps évoqués au chapitre 3 de sa prophétie sont les temps messianiques. Des temps en tout point remarquables, car, nous dit Sophonie, chapitre 3, quelques versets, « En ce jour-là, moi, l'Éternel, je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Alors, celui qui trouvera refuge dans le nom de l'Éternel ne commettra plus d'injustice, il ne dira pas de mensonge, il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais il pourra manger et se coucher sans que personne ne le trouble. Et ces temps de renouveau et de paix annoncés par le prophète, ces temps, nous le savons, sont arrivés. Depuis l'apparition de Christ sur cette terre, en effet, l'homme pécheur n'est plus sans espoir. Qu'il invoque seulement le nom du Seigneur, nous le rappelions il y a un instant, je le redis ici, et le voici transformé. L'Esprit de Dieu établit aussitôt sa demeure en lui et commence de le restaurer en le purifiant peu à peu. Toute chose devient alors nouvelle pour lui. Mais surtout, la sentence qui pesait sur lui est levée. Et deux, la présence bienfaisante du Seigneur lui est à jamais assurée. La sentence qui pesait sur lui est levée. Sophonie 3, verset 15. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Merveilleuse nouvelle qui, quelques siècles plus tard, stupéfie encore l'apôtre Paul. Je cite ici Romains 8, verset 1. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation. Plus rien. Un casier judiciaire vierge. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément désormais à l'Esprit. Le prix de leur rébellion insensée a été payé dans sa totalité, nous le rappelions il y a quelques instants, en prenant part à ce repas symbolique que nous appelons la Sainte Cène. Le prix de leur rébellion insensée a été payé dans sa totalité par Dieu lui-même, en Jésus. Du coup, le souverain juge peut les déclarer justes. Et se faisant dissiper leurs craintes, le jugement, ce jugement terrible dont nous parlait déjà Sophonie, ce jugement ne les concerne plus. Le Seigneur s'est définitivement réconcilié avec eux et plus rien ni personne ne pourra plus jamais les priver de son éternel amour. Ce n'est pas moi qui le dis. Dieu lui-même, par la voix de son prophète, ses apôtres. Mais nous touchons là déjà à cette autre certitude que procure la repentance, c'est que Sophonie mentionne dans les versets 15 et 17 du chapitre 3 de sa prophétie. Pour qui a fait demi-tour, pour qui s'est littéralement converti, l'assurance que la présence bienfaisante du Seigneur lui est à jamais accordée. Verset 15, désormais, le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. La présence du Seigneur, une présence unique donc, parce qu'à la fois rassurante et tonifiante, rassurante pour tous ceux qui l'ont invoqué, Dieu est devenu un refuge, un bouclier Pour eux donc, plus de crainte à avoir. Verset 13, ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Verset 15, ils n'auront plus à redouter le malheur. D'où cet appel, au verset 16, destiné à la foule des convertis. N'aie pas peur, ne baisse pas les bras. Ton Dieu est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Une présence rassurante donc, mais tonifiante aussi. Celui qui désormais est aux côtés des repentis est semblable, nous dit Sophonie, à un héros. Et le prophète de nous présenter alors leur Dieu comme un Dieu jeune et dynamique, une image aux antipodes de celle à laquelle on nous a habitués. Dieu, l'Éternel, présenté en jeune homme, dynamique, aussi fou de son peuple que l'amoureux de sa bien-aimée. Chapitre 3, verset 17, il faut quand même que je le lise pour vous le prouver. Il fera de toi, non Sophonie à Jérusalem, sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Puis il se réjouira à grands cris. Il dansera même, selon une traduction, à ton sujet. C'est notre Dieu ça, dont nous parlons ici. Qui l'eût cru ? Le Seigneur, oui, le Seigneur bondissant d'allégresse, à cause de qui ? À cause de vous, à cause de moi. Le Seigneur bondissant d'allégresse, à cause de nous. Pourquoi ? Parce qu'il nous a enfin retrouvés. Et s'il nous fallait retoucher un peu l'image que nous nous sommes faites de lui jusqu'ici, et qu'il est à craindre que nous ayons communiqué au monde aujourd'hui. Le Dieu qui s'est fait connaître à nous, le Dieu que nous adorons ce matin, est un Dieu bienheureux qui rêvera toujours de faire notre bonheur et qui le fera pour peu que nous cédions à ses avances, je reprends l'image de Sophonie, que nous fassions demi-tour et que nous nous attachions vraiment à lui pour le suivre désormais sans réserve. Alors nous pourrons sans peine répondre à l'appel qu'adresse encore le prophète à la multitude des convertis. Versets 14 et 15 de ce chapitre 3, toujours, « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, rue de Sèvres. » Ça y est, vous avez compris qu'il y avait un lien entre ce que je disais et notre situation. L'Éternel a détourné de toi les jugements passés sur toi. Et voici, il veille sur toi tous les jours. Oui, réjouis-toi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Et tel un fiancé, un amoureux, il fait de toi désormais le sujet de sa joie.